La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette semaine, nous avons rassemblé deux romancières américaines à l'occasion de diverses parutions qui les concernent. Carson McCullers et Joyce Carol Oates sont au sommaire de la Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Genepin, Laurence Millet et Chloé Kaczmarek, avec aujourd'hui à la console Alexandre Dang. De très grands noms de la littérature américaine. La première, Carson McCullers, disparue en 1957 à l'âge de 50 ans, voit donc la plupart de ses livres republiés chez Stock avec de nouvelles préfaces par des auteurs contemporains. La seconde, Joyce Carol Oates, est née en 1938. Elle s'est vue consacrer un cahier de Lerne sorti il y a quelques semaines. Nous parlerons d'elle mercredi et jeudi. Jeudi justement, ce sont les romancières Nancy Houston et Ingrid Astier qui viendront nous parler des dangers de la beauté féminine et de l'amour de la boxe chez Joyce Carol Oates. La veille, c'est l'universitaire américaine Tanya Trumbull qui nous aura raconté la vie de l'écrivaine avant que l'écrivain Eric Neuhoff ne vienne nous dire tout le chic qu'il pense d'elle. Enfin demain, ce sera notre deuxième émission, donc sur Carson McCullers. Et nous serons en compagnie de Marie-Claude Perrin-Chenour et de Geneviève Brisac pour parler notamment de Frankie Adams, mais aussi du style de l'écrivaine. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour notre émission introductive sur Carson McCullers, je reçois Josiane Savigno. Elle a publié sa biographie en 1995, c'était chez Stock, réédité depuis, elle est toujours disponible dans l'édition du Livre de Poche. Josiane Savigno, à qui l'on doit par ailleurs une biographie de Marguerite Yourcenar, un essai biographique sur Philip Ross ou encore, c'était il y a quelques mois, un recueil de ses articles parus dans Le Monde sous le titre « La passion des écrivains, rencontres et portraits », c'est aux éditions Gallimard. Bienvenue à tous, voici la Compagnie des auteurs.
C'est plutôt la personne qui, ne sachant pas exactement où elle est, où elle va, créer des personnages qui, comme elle, ne savent pas non plus où ils vont et ce qu'ils sont. Ses œuvres sont un jeu de miroir perpétuel. Par exemple, il est très difficile de se rappeler l'intrigue des
romans. Très compliqué.
Extrêmement compliqué, parce qu'ils ont à la fois une symétrie, par exemple, deux ménages, mais on est sûr que les rapports entre les quatre personnes vont être extrêmement compliqués. Parce que ce ne sont pas les rapports auxquels on s'attendrait normalement. Et il y a même un critique qui a dit que dans Carson McCullers, tout était anormal, même les chevaux. Et je crois que c'est un peu vrai.
Traducteur et critique Maurice Edgar Coindreau, interrogé par Christian Judicelli en 1971. Bonjour Josiane Savigno.
Bonjour.
Est-ce que c'est l'anormalité des chevaux qui vous a attiré chez Carson McCullers ou est-ce tout autre chose ?
C'est tout autre chose, mais je voudrais réagir à ce que dit Coindreau, qui pourtant est quelqu'un d'extrêmement important et qui a apporté une grande partie de la littérature américaine en France, mais pas Carson McCullers, puisqu'elle a été publiée par André Bay chez Stock très vite. Mais il tombe dans le cliché qui a aussi été véhiculé dans la presse américaine sur le fait qu'elle s'intéressait à des gens anormaux. Elle s'en est expliquée dans des textes autobiographiques en expliquant que pas du tout qu'elle aimait les monstres. C'est pas vrai qu'elle aimait les monstres, mais elle s'est souvent intéressée à des gens décalés. C'est ça dans Le cœur est un chasseur solitaire, le sourd-muet qui a perdu son seul compagnon qui était sourd-muet comme lui et qui peut se confier à personne. Bon. Moi, ce qui m'a attirée, je ne sais pas, c'était très très bizarre. Une femme que j'aimais beaucoup, Marie Susini, après que je m'étais intéressée à à Marguerite Yourcenar m'a dit « Mais vous devriez vous intéresser à quelqu'un de tout à fait différent, quelqu'un qui, au contraire, n'a pas pu construire sa vie, a été quelqu'un d'empêché très, très vite. » Et c'est Carson McCullers. Marie Susini l'a considéré comme une autre petite... Ce qui était corse, l'a considéré comme une autre petite sœur du Sud. Et moi, j'avais lu Carson McCullers comme beaucoup d'adolescents. Je pense que c'est une œuvre qui attire les adolescents, parce que le personnage de Frankie Adams, c'est aussi une personne décalée, on se reconnaît, on se sent, vous allez en parler demain de Frankie Adams.
Et en temps décalé comme le sont tous les adolescents, oui. Ou comme se sentent tous les adolescents. Voilà.
Alors elle peut-être encore plus que d'autres, quoi, parce que vouloir être the member of the wedding, comme c'est le titre anglais, c'est-à-dire faire partie du mariage de son frère, devenir un trio, mais en dehors de ça, elle est aussi, comme beaucoup d'adolescentes, montée en graine trop vite, mal à l'aise, elle se sent pas bien, elle se sent pas... Donc je l'avais lu à ce moment-là, et du coup, je me suis dit, je vais la relire pour voir si j'ai envie d'en savoir plus. Et je l'ai relue et j'ai eu envie d'en savoir plus. En plus, j'ai lu justement tous ces commentaires sur elle, sur toutes ces choses désagréables qui étaient rapportées notamment dans la biographie américaine. Mm-hmm. Qui est une biographie, comme on dit, à l'américaine, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de détails.
Et un peu froide aussi.
Oui, c'est ça. Il n'y a jamais d'hypothèses qui sont prises souvent. C'est-à-dire que, et puis, on accorde autant d'importance au témoignage d'une personne qui a fréquenté Carson McCullers dans une soirée où elle était particulièrement éméchée et désagréable, et à quelqu'un qui a été son ami, comme Tennessee Williams, pendant des années et des années.
Mais votre préférence, est-ce qu'elle va à Yourcenar ou est-ce qu'elle va à Carson McCullers? Parce qu'il y a vraiment deux femmes qui ont l'air tout à fait opposées. L'une d'éducation très classique, l'autre autodidacte, l'une marmoréenne, l'autre un peu tâtonnante comme ça. Est-ce que finalement il y en a une que vous préférez, si l'on peut préférer.
On a peut-être plus de tendresse pour Carson McCullers, mais j'ai quand même un peu de retenue sur à propos des personnes qui se détruisent systématiquement, ce qu'elle a quand même en partie fait.
Mm-hmm. Alors entrons dans la biographie, si vous le voulez bien, de Carson McCullers, qui est morte prématurément. C'était en 1967, à l'âge de 50 ans. Elle n'a publié finalement que 8 livres. Mais vous pensez que si elle avait vécu plus longtemps, elle en aurait publié beaucoup d'autres. Elle avait encore beaucoup de choses à dire.
Je pense qu'elle avait encore beaucoup de choses à dire. Et d'ailleurs, on le voit dans son dernier livre, L'horloge sans aiguille, qui a été assez mal reçu, qu'elle a mis beaucoup de temps à écrire. En effet, à cause de la maladie, à cause des difficultés grandissantes de la maladie. Mais ses 100 livres sont toutes le plus violent sur la question raciale aux États-Unis. Et je pense qu'elle avait encore beaucoup de choses à dire sur le sujet, puisque quand elle est morte, on était encore en plein combat, etc., pour les droits civiques. Il y avait encore, et je pense qu'on voit aussi, elle a laissé des textes autobiographiques un peu, comment dire, un peu erratiques, parce qu'elle était vraiment, vraiment malade, mais elle avait encore envie, elle avait envie de réfléchir à ce qu'elle avait fait, de se réexpliquer sa manière d'écrire, et puis la lutte qu'elle a faite pour écrire L'horloge sans aiguille prouve que c'était ça, quoi. Il fallait qu'elle tienne, qu'elle écrive.
C'est une écrivaine qui a connu tout de suite un succès très important, qui est connue dans le monde entier. Je me suis laissé dire que vous étiez en train ou que vous aviez préfacé l'édition chinoise des œuvres de Carson McCullers.
Oui, c'est assez drôle. Les Chinois viennent d'acheter l'ensemble, puisque comme vous avez dit, elle a peu publié. Au fond, c'est une œuvre que je trouve assez importante, mais assez close, quoi, pas énorme. Et donc les Chinois, une maison d'édition chinoise a acheté le tout pour en faire un gros volume et m'a demandé de préfacer ce gros volume. J'ai trouvé assez drôle l'idée d'être traduite en chinois, ça m'a flatté.
Vous n'allez pas pouvoir vérifier la traduction.
Non, mais je vais pouvoir la regarder, ça. Regarder des idéogrammes et savoir que c'est moi qui les ai écrits, ça va me plaire.
La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de Carson McCullers avec vous, Josiane Savigno, auteur donc de cette biographie, Carson McCullers, un cœur de jeune fille. Le titre de votre biographie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est restée une adolescente toute sa vie?
Oui, je voulais dire, enfin, c'est peut-être un peu forcé, mais elle a gardé toute sa vie quelque chose qu'on perd, je pense, en devenant adulte. Vous savez, il y a cette chanson de Brel, la chanson des vieux amants, où il dit être vieux sans être adulte. Et je crois qu'elle a gardé un certain rapport de non-cynisme, j'allais dire, et de fraîcheur que certaines personnes
naïveté.
Perdent. Naïveté, peut-être, oui, peut-être un peu quand même, peut-être. Par exemple, dans ses rapports avec son mari, ils ont divorcé, puis ils se sont remariés. Il y a cette correspondance pendant la guerre où elle devient une épouse de guerre comme les autres.
On entendra tout à l'heure, justement, ouais. Des lettres.
Et donc, je voulais essayer de montrer ça, qu'au fond, peut-être aussi à cause de sa mort précoce, les gens qui meurent précocement restent jeunes. Bon, on peut penser à Gérard Philippe, il sera jamais vieux parce qu'il est mort très jeune. Et je crois que c'est son cas aussi à elle. Donc, puisque c'est, comme vous l'avez dit, c'est le centenaire de sa naissance et le cinquantenaire de sa mort, parce qu'elle n'a vécu que 50 ans.
Est-ce qu'elle est reconnue comme réellement une écrivaine, et peut-être en particulier dans la biographie dont vous parliez tout à l'heure, celle qui n'est pas la vôtre, celle que vous aimez moins, où on a l'impression que on essaie d'expliquer l'œuvre par la vie. Selon vous, on a trop tendance, justement, dans son cas, à essayer d'expliquer son œuvre par qui elle était. Et c'est vrai qu'il y a des correspondances, quand même.
Oui, il y a des correspondances, c'est sûr. Mais à propos de la biographie américaine, qui est l'œuvre de quelqu'un qui s'appelle Virginia Spencer Carr, je voudrais quand même lui rendre hommage, parce que beaucoup des témoins qu'elle avait contactés, elle, pendant son enquête, étaient morts. Mmh. Donc, leurs propos qui sont rapportés par elle m'ont servi. Donc, je ne peux pas négliger cette biographie et dire que... Non, j'ai pas tellement aimé... vous savez, j'ai eu une très, très mauvaise critique de l'horrible le Michiko Kakutani, qui, d'après Philippe Roth, vient heureusement de prendre sa retraite dans le New York Times, et elle disait que c'était terrible parce que j'avais fait une biographie empathique et que j'avais aimé cet horrible Carson McCullers. En effet, Virginia Spencer Carr ne l'a pas aimé, ça c'est certain. Mais l'idée de l'autobiographie, pas tellement dans Le cœur est un chasseur solitaire, encore que Mick peut ressembler un peu à Carson, mais évidemment, quand on a lu Frankie Adams et qu'on sait un certain nombre de choses sur Carson, notamment par exemple, l'histoire de son prénom. Donc, elle s'appelait Lula Carson Smith. Et au bout d'un moment, elle a trouvé que ce Lula, c'était quand même trop féminin, trop mièvre, peut-être. Elle a choisi de Carson. Ensuite, un peu comme Frankie, elle était, j'allais dire, très en avance physiquement sur son époque, parce qu'elle portait, elle s'habillait comme des filles d'aujourd'hui. Elle portait un pantalon avec une chemise dessus. C'était pas tellement la mode.
Vous dites comme des filles des années 60-70.
Oui. Ni même le fait de porter des chaussures de tennis ou de basket comme on le fait encore maintenant.
Elle est née en 17, dans l'État de Géorgie. C'est donc une jeune fille du Sud. En quoi ça, c'est important ?
Le Sud, pour elle, c'était à la fois, comment dire, c'était à la fois une appartenance et un repoussoir. Et au fond, elle est toujours restée du Sud. Je ne sais pas si vous avez un morceau de sa voix ici, mais elle avait gardé un fort accent du Sud, un accent vraiment lourd du Sud.
On tâchera de trouver ça d'ici demain.
Oui, il existe, puisque quand j'ai fait quelque chose à la Maison de la Poésie, on avait sa voix. Et donc, ce Sud, très vite, elle le décrit très très bien, d'ailleurs, dans Le cœur est un chasseur solitaire, la chaleur pesante sur des gens qui travaillent. Et puis en plus, comme vous dites, on est dans les années 20, tout n'est pas climatisé, donc les gens souffrent. Et puis très vite, le racisme l'a horrifiée. Elle raconte très bien qu'il y a une femme noire qui s'occupait d'elle et de son frère. Et un soir, elle a dû partir en taxi, et les chauffeurs de taxi refusaient de la prendre. Elle était une petite fille à l'époque, elle devait avoir, je ne sais pas, 9-10 ans, 12 ans peut-être. Non, 9-10 ans plutôt, parce que 12 ans, elle était plus autonome, et elle était absolument révoltée par ça.
Le Sud, c'est aussi William Faulkner, et l'un de ses livres préférés était précisément Le bruit et la fureur, et pourtant, on a le sentiment qu'entre Carson McCullers et Faulkner, il y a un fossé, mais peut-être aussi des liens.
D'abord, il faut quand même dire que Faulkner, c'est l'œuvre plus importante. Il ne faut pas surévaluer l'œuvre de Carson McCullers. Faulkner, c'est quand même le géant de du Sud. Et une autre femme du Sud que j'aime beaucoup, qui est Eudora Welty, avait aussi une admiration passionnée pour Faulkner, avec lequel elle avait fait, elle, du canot. elle était... Et puis, il y a aussi, dans le Sud, il y a aussi Flannery O'Connor. Ces gens sont tous quand même très marqués par le Sud. Mais Flannery O'Connor n'aimait pas du tout Carson McCullers, mais pas du tout.
Pour quelle raison ?
Elle ne pensait pas du tout que c'était un écrivain respectable. Ouais. Elle a fait une critique abominable de L'Horloge sans aiguille, en disant que c'était un livre horrible.
Parce qu'elle ne l'a pas comprise ou parce que ce n'était pas assez catholique, peut-être, pour Flannery O'Connor ?
Je pense que la vie de Carson McCullers, qui devait lui apparaître comme dissolue, devait la repousser. Et pourtant, il y a un lien, j'allais dire, très fort entre elles. C'est qu'elles sont toutes les deux en train d'écrire en luttant contre une maladie atroce qui finira par les tuer toutes les deux.
Alors l'adolescence de Carson McCullers, c'est marqué par une vocation qui n'est pas du tout la vocation d'écrivain, qui est la vocation de musicienne.
C'est-à-dire qu'il y a deux, on lui fait deux cadeaux. D'abord un piano. Et elle adore la musique, et sa mère adorait la musique. On ne savait pas si elle n'avait pas appelé Carson à cause de Caruso. Elle avait beaucoup d'admiration pour Caruso. Et donc le piano, tout de suite, c'est quelque chose qui l'a requise. Elle a adoré ça toute sa vie. Enfin, malheureusement, au bout d'un moment, elle ne pouvait plus jouer, parce que quand on est paralysé d'une main gauche, on ne peut pas difficilement jouer du piano. Et elle a eu un professeur de musique qui était sans doute son premier amour, Mary Tucker. Et donc... chaque fois qu'on a un prof dont on est amoureuse, moi ça m'est arrivé, j'ai failli faire de l'histoire parce que j'étais amoureuse de mon prof d'histoire.
Finalement, c'est votre prof de journalisme qui a tout emporté.
Non, ça n'a pas été une histoire d'amour. C'était une histoire d'amour avec moi-même peut-être. Et donc, cette Mary Tucker, premier amour de Carson sûrement, et elle veut devenir musicienne. Et puis quand même, pour son anniversaire, quand elle a 16 ans, puisqu'elle écrit son premier texte, Sucker, à 16 ans, son père lui offre une machine à écrire. Mm-hmm. Là, elle découvre une autre manière de pianoter, si je peux dire. Et elle commence à penser à écrire.
C'est une jeune fille qui ressemble un peu à un jeune garçon, qui a tout de suite été un petit peu androgyne.
Oui. Oui, elle est longue et mince, et elle s'habille pas comme une fille, une gentille petite fille du Sud, avec des jolies petites robes à bretelles et puis des petites chaussures. Elle se met pas de vernis à ongles, elle est autre. Oui, elle est autre déjà.
Là-dessus, je vous propose d'écouter l'un de ses traducteurs, Jacques Tournier.
Toujours resté au bord de ce qu'était une adolescente et son grand livre, c'est Frankie Adams, qui est le passage tout à fait mystérieux du 13 à 14 ans, c'est-à-dire du moment où on est déjà trop petit on est encore trop petit pour les grands, mais on est déjà trop grand pour les petits, etc.
Et du moment où on s'aperçoit qu'on est seul.
Et non seulement qu'on est seul, mais qu'on est double aussi. Je veux dire qu'on est toute seule à grandir, mais on est double en soi. Et ça, il y a une espèce de constante dans son œuvre qui est non pas l'androgynie, non même pas la bisexualité, mais une sorte de façon d'être à la fois homme et femme et de se battre avec ça.
Diriez-vous aussi, Josiane Savigno, que Carson McCullers, d'une certaine façon, était un être double, ou ça, c'est encore un cliché colporté au fur et à mesure des années ?
Non, je crois que ce que dit Jacques Tournier est très intéressant.
Qui la connaît bien, quand même, Jacques Tournier.
Oui, mais d'ailleurs, je l'ai rencontré et on a beaucoup parlé pour ma biographie. On a un petit désaccord, c'est que lui pense que Reeves McCullers était aussi potentiellement un écrivain et qu'il a mis la main à la pâte de certains livres. Par exemple, il ne cite pas Reflet dans un œil d'or, qui pour moi est son chef-d'œuvre, parce qu'il pense que Reeves a fait quelque chose. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'il a apporté de la matière, parce que c'est une histoire dans une caserne et qu'il était soldat lui-même. Mais là où Tournier dit des choses très intéressantes, c'est quand il dit que c'est un être un peu à part, qu'elle n'est pas vraiment bisexuelle. Et ça me donne l'occasion de dire que je pense que la sexualité, c'était pas tellement son affaire, quoi. Elle avait des emballements amoureux. Ouais.
Son frère disait qu'elle était surtout asexuelle, en fait.
Oui, moi je crois que. Mais par exemple, quand elle se jette à la tête de Anne-Marie Schwarzenbach, c'est pas nécessairement pour la mettre dans son lit.
Ouais. Alors 1932, c'est l'année où son père lui offre la machine à écrire dont vous venez de parler, mais c'est aussi l'année où elle subit les premières attaques de cette maladie qui va finalement être mal diagnostiquée et qui va lui empoisonner, et même bien plus, la vie jusqu'à sa mort.
Et oui, c'est ça, c'était je ne sais pas très bien comment ça se traduit en français, je crois que c'est quelque chose comme rhumatisme articulaire aigu ou quelque chose comme ça. Ouais. Et donc, ça n'a pas été diagnostiqué, on a pensé que c'était une maladie d'adolescente, enfin, on a donné des médicaments d'une grande banalité, on ne lui a pas expliqué qu'il serait peut-être raisonnable avec cette maladie de ne pas s'alcooliser trop, et disons que l'accumulation de tous ces facteurs, une maladie grave non diagnostiquée, une vie et un régime alimentaire, si on peut dire, non adapté à une maladie grave, ça produit une tragédie.
Alors Reeves, parlons-en, parce que même si vous n'êtes pas tout à fait sur la ligne de Jacques Tournier pour pour dire l'importance de Reeves dans l'écriture de Carson McCullers, on peut difficilement nier la grande importance dans sa vie de ce garçon. Donc il se rencontre en 1935, il se rencontre à Columbus.
Ouais. Mais je ne suis pas d'accord avec Jacques Tournier, mais parce que j'ai lu les lettres de Reeves, McCullers, les lettres de guerre. Je ne sais pas si Jacques Tournier les a lues, on n'en a pas reparlé. Et qu'on voit bien que ce sont des lettres très, très touchantes et très intéressantes parce qu'il adore la France et ce sera important dans leur destin à eux deux. Et qu'il lui raconte que ce pays, il a fait quand même le débarquement, ce qui est un truc. Chose terrible, quoi. Il a vu tous ces morts autour de lui, etc.
Il était sur les plages.
Oui, mais on voit que c'est pas un écrivain quand même. Mmh. C'est quelqu'un qui écrit de belles lettres. Alors ils se rencontrent, ils sont très amoureux. Il est soldat et ils vont se marier très vite. Et en effet, il veut devenir écrivain lui aussi. Donc ils ont un pacte. En fait, ils ont un pacte, c'est-à-dire pendant une année, l'un d'eux écrit. L'autre fait bouillir la marmite, si on peut dire. Et puis, pendant l'autre année, dès que le premier livre est fini, s'il est fini au bout d'un an, enfin, en tout cas, dès qu'il est fini, on inverse le jeu. Et c'est celui qui a écrit en premier, ou celle, qui fait bouillir la marmite, et l'autre se met au travail. Manque de chance.
Il y en a une qui fait pas bien bouillir la marmite aussi.
C'est-à-dire que, de toute façon, ce qui se passe, c'est que Le cœur est un chasseur solitaire est un succès immédiat, à la fois de critique et de public. Et que, évidemment, on dit c'est la naissance d'une petite prodige de jeune écrivain, etc. Donc il faut qu'elle continue.
Et puis.
Et je pense que ça a été très dur pour Reeves. Je pense. J'ai pas de témoignage direct parce que quand j'ai travaillé, il y avait plus du tout de. Et il y avait encore l'avocate de Carson McCullers qui avait le droit moral et qui était la seule qui pouvait m'autoriser à aller consulter la correspondance à laquelle n'avait pas eu accès Virginia Spencer Carr parce que elle avait été antipathique à la dite avocate. Mais il y avait plus de gens de la famille de Reeves. J'ai d'ailleurs été même très très ennuyée parce que normalement, pour reproduire les lettres, il aurait fallu que je trouve quelqu'un qui me donne l'autorisation de reproduire les lettres de Reeves. Donc, c'est plutôt l'avocate de Carson McCullers qui l'a pris sur elle en disant « on ne peut plus trouver personne, allez-y, je m'en occuperai s'il y a un problème ».
Alors, ce mariage entre deux sortes de jumeaux, finalement, ils se ressemblent quand même énormément, il est assez mal compris. On posera beaucoup la question à Carson McCullers. Pourquoi, finalement, ce mariage avec cet homme-là?
Mais je pense qu'elle pouvait pas vraiment répondre, en fait. Je crois qu'elle pouvait pas vraiment répondre. Mais je crois que vous avez donné la réponse, vous. C'était qu'il y avait cette espèce d'étrange gémellité, y compris, j'allais dire, la gémellité désastreuse de la passion pour les boissons alcoolisées.
Après les grands anciens, enfin ceux qui s'appellent Hemingway, Faulkner, Dos Passos, Steinbeck, etc., quand elle a publié son premier roman, Le cœur est un chasseur solitaire, elle avait 23 ans, c'était en 42 exactement, c'est-à-dire à une époque où nous étions en guerre, mais où il se passait là-bas des choses tout à fait extraordinaires. Elle est apparue tout de suite, très très jeune, comme un petit peu, si vous voulez, ce qui a pu arriver à Sagan chez nous, enfin une espèce de très jeune fille de 20 ans qui tout d'un coup est devenue célèbre du jour au lendemain et considérée par tout le monde. Et elle a pris sa place à ce moment-là. Et je crois qu'on continue à penser qu'elle est un des grands auteurs de la période 40-50, en fait.
Jacques Tournier, dont on parlait justement, qui évoque la sortie du cœur, est un chasseur solitaire. On peut dire au passage qu'il a été lui aussi réédité chez Stock avec une préface de Véronique Ovaldé. La comparaison avec Sagan, elle vous semble juste?
Bien sûr, il a absolument raison. Et d'autant plus que Sagan, elle-même, a voulu aller voir Carson McCullers. Elle le raconte très bien. Il y a un très très beau portrait dans Avec mon meilleur souvenir, où elle avait plusieurs passions en arrivant aux États-Unis. Elle aussi, petit prodige qui venait d'être traduit, Bonjour Tristesse venait d'être traduit en anglais. Et elle voulait absolument deux choses, écouter Billie Holiday et aller voir Carson McCullers. Et donc, elle est en d'une certaine banlieue lointaine, je ne sais plus, pour aller écouter Billie Holiday. Elle le raconte aussi dans Avec mon meilleur souvenir. Et puis, elle est allée à Key West, où Tennessee Williams était avec Carson McCullers, déjà très mal en point, parce qu'on en est en 1956, probablement 55. Donc, ils sont tous les deux à Key West. Et elle travaille, elle essaie de travailler, en effet, toujours à l'horloge sans aiguille. Ça a commencé déjà depuis quelques années. Elle a mis presque 12 ans à l'écrire. Et puis ils sont là avec Tennessee Williams et ils s'occupent beaucoup d'elle parce qu'il faut l'aider à marcher. Elle est complètement paralysée du côté gauche. Il faut vraiment s'occuper d'elle, quoi. Et puis ils vont à la plage et ils boivent beaucoup d'eau. Beaucoup, beaucoup d'eau. Et donc Sagan se dit, mais pourquoi ils boivent tellement d'eau, c'est terrible. Et elle décide de boire elle aussi une gorgée d'eau. Et elle manque s'étouffer parce que c'était du gin.
Alors, il y a Tennessee Williams, il y a d'autres amis hein, de Carson McCullers. Alors il y a Truman Capote qu'elle va rencontrer dans une résidence d'écrivain, je crois, à Yaddo.
À Yaddo, oui. Ouais. Ils sont tous allés.
C'est
les
ça.
Les potes aussi, ils sont les tous allés.
Les meilleurs, ils sont
à
passés.
Yaddo, tous allés à Yaddo.
Et puis il y a alors Cartier-Bresson, pareil, qui a bien connu, qui a connu Truman Capote et qui a fréquenté aussi
Cartier-Bresson, je lui ai parlé quand j'ai fait ma biographie et il avait toujours un souvenir extrêmement ému de cette femme. En revanche, avec Truman Capote, ça s'est assez mal terminé.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'il y a dans des lettres de Truman Capote, il y a des choses absolument horribles, mais en même temps, comme c'est un très bon écrivain, et justement, c'est pas comme les lettres de Reeves, il décrit. Donc, vous savez qu'elle avait gardé cette manie du Sud de s'appeler Sister. Uh-huh. Et donc, un jour, Truman Capote est à Rome et Sister et Reeves, ils sont aussi. Et donc, il écrit « J'ai croisé Sister et Monsieur Sister, évidemment complètement titubant, ne parvenant même pas à rentrer à leur hôtel. »
Oui, enfin bon, de son côté, il avait également une bonne descente. Donc, le premier livre, c'est 1940, hein, je crois, oui. Et non pas 43, non, comme pas, le non, dit Jacques Tourny dans l'archive, qui doit faire une erreur.
C'est 40, dès l'année suivante, c'est « Le cœur est un chasseur « Reflet dans un œil d'or », que je trouve un livre très très fort quand même, un livre qui a fait scandale tout de suite. Et d'ailleurs, après, à la toute fin de sa vie, il y a le film de John Huston qu'elle ne peut pas voir terminé parce qu'elle est morte, et qui fait scandale aussi. Les ligues de défense de je ne sais plus quoi, le moral, enfin les ligues puritaines disent que c'est un film scandaleux comme le livre était scandaleux.
Et donc cette femme que vous évoquiez tout à l'heure, Anne-Marie Clarac-Schwarzenbach, qui est aussi écrivaine, qui est suisse, elle lit ce roman. Elle le trouve pas mal.
Elle le trouve pas mal. Elle dit, ça l'intrigue. Ouais. Ça l'intrigue. Et puis il y a aussi, elle est amie avec Erika et Klaus Mann, Anne-Marie Schwarzenbach. Et donc Klaus Mann lui aussi écrit à sa sœur, je crois. J'ai rencontré cette jeune Carson McCullers. Je crois qu'il y a quelque chose. Je crois qu'elle a quelque chose à dire. Je crois qu'il y a quelque chose dans cette fille. Et Anne-Marie Clara Schwarzenbach, c'est quelqu'un qui s'habille comme un homme et qui fait très très Amazon, dirons-nous. Et donc
très belle aussi, magnifique.
Magnifique. Et donc quand Carson la voit, elle en tombe follement amoureuse. L'autre est un peu désarçonnée parce que, en effet, alors si on revient à cette histoire d'adolescence, elle a une manière assez adolescente de se jeter à la tête des gens qu'elle a envie d'aimer.
Elle est peut-être collante un peu.
Oui, plus que ça, je crois. Oui. Je crois que justement, quand on devient un peu adulte, on a malgré tout une certaine retenue, même si on veut absolument essayer de dire à quelqu'un qu'on l'aime et qu'on aimerait être aimé de lui. Elle en fait pas mal, oui, beaucoup.
Vous parlez de troubadourisme, c'est assez joli.
Oui, c'est ça, c'est parce que c'est assez troubadouresque, en effet. C'était aussi pour dire ce que je disais tout à l'heure, à savoir que c'est pas très sexuel. C'est pas très très sexuel. Par exemple, quand elle dit qu'elle a envie de dormir avec elle, pour moi, c'est pas un euphémisme pour dire j'ai envie de faire l'amour avec toi. C'est plutôt j'ai envie de me blottir. Elle a toujours été comme ça avec les gens qu'elle a aimés. Elle avait envie d'être touchée, protégée, d'être encore une enfant, au fond.
Et d'ailleurs, dans les romans de Carson McCullers, le sexe finalement est toujours lié à la honte.
Oui.
C'est rarement un sexe flamboyant. Le plaisir est rarement immense.
Non, surtout pas. Et même quand elle veut être partie du mariage de son frère, il n'y a pas trop de choses sur l'intimité du frère et de la future belle-sœur dans Frankie Adams. Le sexe n'est pas son affaire.
Et cette Anne-Marie Clara Schwarzenbach va mourir aussi assez jeune.
Tragiquement aussi, d'une chute de bicyclette.
Ouais.
Et donc, quand Carson la prend, elle est vraiment dévastée.
Donc
C'est sans doute vrai qu'avec la mort de Anne-Marie Schwarzenbach, c'était la fin de sa jeunesse, se clôt sa jeunesse sur cette mort.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
On va poursuivre cette conversation avec vous, Josiane Savigno, dans quelques minutes, mais tout de suite, c'est en compagnie des revues et c'est avec vous aujourd'hui, Valérie Thoragnan, directrice de la Revue des Deux Mondes. Bonjour Valérie.
Bonjour Mathieu.
Alors, la Revue des Deux Mondes qui se demande ce qu'est le macronisme, et peut-être encore plus aujourd'hui après l'interview de 70 minutes du président hier sur TF1.
Nous sommes en plein dans l'actualité médiatique. Alors oui, la Revue des Deux Mondes se demande ce qu'est le macronisme, comment s'est construite la pensée d'Emmanuel Macron, quelles lectures, quels philosophes et écrivains ont façonné depuis l'enfance l'animal politique brillant qu'il est devenu. Quels enseignements peut-on en tirer sur son exercice du pouvoir? Deux réponses simples, il n'y en a pas, vous l'imaginez bien, car Macron préfère les questions aux réponses. Un peu à l'image de la pensée de Ricoeur, explique le philosophe Olivier Abel, qui est d'abord un style interrogatif et des concepts duels qui se corrigent mutuellement, travail et parole, responsabilité et conviction, amour et justice, éthique et morale. C'est donc bien à Ricoeur que nous devons la paternité du swing présidentiel, ce « et en même temps » qui ponctue si souvent ses discours.
Ça fait rire aux larmes, Josiane Savigno.
Ah oui, j'adore. Continuez, j'adore.
Alors, Ricoeur aime le paradoxe politique, le tiraillement. Et pour Olivier Mongin, qui a longtemps dirigé la Rue Esprit, auquel Emmanuel Macron a contribué, Ricoeur pose par ailleurs une question essentielle. Comment la place vide du pouvoir en démocratie peut-elle renouer avec une autorité? C'est un exercice complexe pour le jeune président qui abandonne en partie sa vision jupitérienne du pouvoir puisqu'il redescend dans l'arène afin d'expliquer le sens de ses réformes depuis qu'il a chuté dans les sondages. Et la dernière interview dont vous parlez, Mathieu, en est la démonstration la plus récente.
Alors parmi les autres penseurs qui influence Macron, il y a, on le sait, on en a beaucoup parlé, Machiavel, à qui il avait consacré son mémoire de maîtrise. Ça vous a beaucoup intéressé.
Mémoire qui n'est pas publique et donc que personne n'a lu, mais Philippe Reynaud s'est amusé tout de même à passer au crible de la pensée de Machiavel, les paroles et les actes du président. Alors Emmanuel Macron a délibérément cherché à ressusciter la figure du grand homme, d'une manière qui, si l'on se réfère au philosophe qu'il a étudié de près, est plus proche de Machiavel que de Hegel. Et en même temps, excusez-moi, sa volonté de moralisation de la vie politique semble aux antipodes de l'immoralisme de l'auteur du Prince. Macron, en fait, n'aime rien tant que brouiller les cartes du macronisme. Le modèle décentralisé de la start-up coexiste avec l'attachement à l'héritage vertical du gaullisme dans un cadre général qui évoque plutôt Turgot que Montesquieu, poursuit Philippe Reynaud.
Alors, dans les trois ouvrages que le président Macron a voulu faire figurer sur la photo officielle de son quinquennat, figurent donc, outre les nourritures terrestres de Gide, les mémoires de guerre du général de Gaulle, le rouge et le noir de Stendhal. Comment interpréter, Valérie, ce choix stendhalien?
Alors, que veut nous dire l'exécutif, ironise Marin Viry dans la Revue des Deux Mondes. Une grille de lecture platement progressiste pourrait présenter ce chef-d'œuvre de Stendhal comme la peinture de la résistance, de l'ordre bourgeois, l'amour libre, amour à la fois transclasse, Julien Sorel est pauvre, ses maîtresses sont riches, et transgénération. Julien est beaucoup plus jeune que son grand amour, Madame de Rênal. Tiens, un peu comme Emmanuel Macron. Mais en fait, c'est un roman dont le thème central est l'incapacité à discerner son propre désir, qui plonge dans les profondeurs secrètes de l'ambivalence, au point précis où la capacité de haine et d'amour s'exerce sur le même objet, alternativement, sans que la conscience comprenne pourquoi. Julien Sorel n'aime pas ce qu'il poursuit, Mathilde Lamoule, et il adore ce qu'il brûle, Madame de Rênal. Et, poursuit Marin de Viry, le frottement de l'esprit de Julien Sorel avec cette ambivalence, vécu trop souvent et avec trop d'intensité, le fait basculer dans la folie où tout équivaut à son contraire. Fin de citation. Évidemment, nous n'en tirerons aucune conclusion sur Emmanuel Macron.
Merci beaucoup Valérie Thoragnon. Tout cela est donc Mathieu. À retrouver dans la revue des Deux Mondes, à acheter dans n'importe quelle librairie.
Absolument, et même en kiosque.
Et même en kiosque. À bientôt.
On peut s'abonner aussi.
C'est parti alors. C'est toujours la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture et nous sommes avec Josiane Savigno pour parler de l'écrivaine américaine Carson McCullers et de son mari Reeves McCullers à qui elle adressait de très belles lettres d'amour pendant la guerre. On a parlé tout à l'heure avec vous, Josiane Savigno. Écoutons donc un extrait d'une lettre envoyée par Carson à Reeves, lui ici par Catherine Mouchet.
J'aime beaucoup ce que tu m'écris sur le Luxembourg. Mais quand je pense à cet enfer du front... Non, mon chéri, c'est impossible, je ne peux pas. Je ne veux pas m'habituer à l'idée qu'il puisse arriver quelque chose. N'essaie pas de me le demander. Mon esprit se cabre et refuse. J'ai besoin de croire en la vie. Avant tout, en la tienne. Je sais que tu survivras. Tu as telle richesse en toi, de telles promesses d'avenir. Mais j'ai beau m'en convaincre, je continue à vivre dans l'angoisse. Dieu seul sait quand cette guerre va finir. Non, je ne crois pas, moi non plus, que les Allemands capituleront d'un coup. Reeves, je te veux fidèle à toi-même. Mais t'imaginer de retour avant l'été, oh, Reeves, ce serait quelque chose à quoi me raccrocher. Bon, assez pleurniché. Il fait clair et froid aujourd'hui. Il y a du soleil, mais l'air est vif. Les journaux prétendent que tous nos soldats mangeront de la dinde pour Thanksgiving. Je ne le croirai que si tu me le confirmes. Nous aurons une poule farcie aux huîtres. Un country captain. C'est ce nouveau plat dont je t'ai parlé. Un poulet... cuit à la cocotte, avec toutes sortes de légumes et des épices indiennes. Des aubergines farcies, et maman prépare une tarte au potiron. Elle s'active dans la cuisine avec Rita. Nous n'arrêtons pas de nous dire que ce menu t'enchanterait. Le jour de ton retour, sois tranquille, nous ferons des merveilles.
C'est France Culture que vous écoutez, en particulier la compagnie des auteurs avec cette lettre qui est une lettre d'amour finalement, Josiane Savigno, et qui date pourtant d'après le divorce de Carson et Reeves. Alors expliquez-nous un petit peu comment se développe finalement l'histoire d'amour essentielle de ces deux personnes.
Justement, il retombe amoureux pendant la guerre. Elle s'aperçoit que tout ce qu'elle dit là, d'abord qu'elle a besoin de croire en la vie, et ça c'est quelque chose de très important pour elle. Je crois qu'elle elle croira en la vie jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et tout d'un coup, elle s'aperçoit que elle ne veut surtout pas que la guerre emporte cet homme, que finalement ils ont divorcé parce que il y avait en fond ce problème entre celle qui arrivait à écrire et qui avait du succès, et même si elle était contestée pour refler dans un œil d'or, elle existait, elle avait une existence d'écrivain absolument, et celui qui n'avait pas réussi à l'être. Donc ça n'allait plus. Mais elle s'est aperçue que qu'ils s'aimaient, et lui aussi s'en est aperçu, puisqu'il lui écrivait toujours, et que tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il découvrait de la France qui lui plaisait tant, il avait envie de le partager avec elle.
Alors qu'est-ce qui est contesté dans ce second roman, Reflet dans un œil d'or? Et d'abord, qu'est-ce qu'il représente pour vous ce livre?
Mais pour moi, c'est le livre où son style est le plus fort, parce que c'est le plus tenu, le plus ramassé, le plus sec. Mais ce qui a choqué, c'était l'attirance homosexuelle d'un soldat pour un autre. Et c'était scandaleux, 1941. C'était scandaleux d'oser écrire une histoire. En plus, que ce soit un militaire. Mm-hmm. Tu vois, elle aurait raconté une histoire du monde de la nuit de New York, où deux hommes vont ensemble dans des bars et finissent ensemble par faire l'amour, on aurait trouvé que bon, c'était New York, cette grande ville abominable, Babylone, dégueulasse, etc. Mais dans une caserne dans le sud, et qui commence comme ça, que dans une caserne, en temps de paix, ce qui domine, c'est l'ennui. Mmh. Donc dans l'ennui naissent des passions interdites, des vengeances, des choses extrêmement désagréables. Et là, c'était comme un crime de lèse armée.
Elle parle de la virilité américaine, selon vous?
Elle parle...
Et justement, en temps de guerre, c'est encore plus difficile d'aborder ces sujets-là.
Oui, elle parle pas tellement des hommes bien dans leur peau, virils, et pour lesquels tout va bien.
Donc elle se remarie, il se remarie le 19 mars 1945 au retour de Reeves. Et alors là, ils ont envie de retourner en Europe et de retourner en France. Qu'est-ce qui les attire en particulier dans ce pays?
C'est lui. Lui a tellement aimé ce pays.
Ouais, qu'est-ce qu'il a aimé alors? C'est quand même un pays qui doit lui rappeler des mauvais souvenirs.
Oui, mais il y a le débarquement, les choses horribles. Et ensuite, il commence à voir la Normandie, la beauté de la Normandie. Et puis après, il traverse des paysages français. Et il est sensible, comme d'ailleurs beaucoup d'Américains, au fait que la France a cette qualité d'avoir tant de différents paysages sur un petit territoire. Aux États-Unis, on peut faire des centaines de kilomètres avant de trouver un autre paysage. Et là, entre la Normandie et quand il est du côté du Luxembourg, il y a assez peu de choses en commun, ni du point de vue du paysage, ni même du point de vue de la nourriture, ni du point de vue des alcools qu'on boit. Il découvre le Calvados.
Et le cognac.
Donc tout ça. Et cette France, on le voit très bien dans ses lettres, cette France lui plaît. Ce pays lui plaît. Ça lui apparaît comme un pays plus souple. Même s'il est encore en guerre, il pense que après la guerre, ce pays sera plus libre que sont les États-Unis, qui a moins cette pesanteur du puritanisme. Mais il a envie de lui faire partager ça, de lui faire connaître ce pays et cette ville, Paris. Et il se trouve que justement, dès 1946, André Bay, qui dirige à l'époque les éditions Stock, a trouvé que Le cœur est un chasseur solitaire était un livre magnifique, Reflet dans un œil d'or aussi. Et il a décidé qu'il faudrait traduire tous les livres en français de Carson McCullers. Donc quand elle arrive, elle est aussi le petit prodige américain qui arrive en France avec son mari pour découvrir ce pays et pour se faire connaître du public français.
Oui, puis pour découvrir aussi l'épicentre de la culture qu'est à ce moment-là l'émergence de Saint-Germain-des-Prés. Ils assistent quand même à ça, ils en font partie un petit peu.
Mais bien sûr, ils sont en plein dans ce Paris de l'après-guerre où justement on veut oublier toutes les atrocités et où il y a toute cette jeunesse qui fait la fête toute la nuit et qui se dit qu'il faut se réapproprier la jeunesse dont on a été quasiment privé par ces années de guerre.
Oui. Mais alors la France ne suffira pas à les soigner finalement d'un espèce de mal qui vient de plus loin, qui est plus profond. Et l'année en France, malgré tout, sera assez désastreuse, Josiane Savigny.
Ah oui, ils partent en disant qu'ils ne reviendront jamais. Ouais. D'abord, bon, ils ont trop fait la fête, ils ont trop bu, ils se sont dispersés, ils n'ont pas écrit, ni l'un ni l'autre, parce que je pense que lui, du coup, après ses lettres de guerre, il avait amorcé quelque chose et qu'il se disait qu'il allait s'y mettre, en fait. Rien de tout ça ne s'est passé. Il y a eu cet enthousiasme parce qu'ils ont participé, ils étaient jeunes eux aussi, ils ont participé à cette jeunesse, à ces folles nuits de Saint-Germain-des-Prés. Mais comme vous dites, leur mal était plus profond psychologiquement, à l'un comme à l'autre. Et c'est pas, bien que l'alcool soit un bon anxiolytique, ça suffit
pendant
pas.
Pendant quelques heures.
Voilà, ça suffit pas à soigner certains maux profonds et certains mal de vivre de gens qui pourtant adorent la vie, qui proclament leur enthousiasme, leur fanatisme de la vie, et qui en même temps, n'est-ce pas, tout le monde dit en même temps aujourd'hui, en même temps ont du mal à vivre vraiment cette passion pour la vie.
Et en même temps qu'ils aiment la vie, Josène Savigno, ils ont une attirance pour la mort, pour le suicide, et à un moment donné...
Surtout Reeves,
mais Reeves propose aussi...
Un deuxième voyage.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'ils repartent et ils se disent qu'ils ne reviendront jamais en Europe, que l'Europe est finalement maléfique, alors qu'ils voyaient ça comme le pays de leur nouvel amour, de leur reconquête d'eux-mêmes. Ça n'a pas marché. Donc ils ne reviendront pas.
Donc ils partent en 47, c'est
oui.
ça.
Et ils reviennent.
Deux ans après, alors.
Ils reviennent. Ouais. Ils reviennent et ils s'installent. Ils s'installent dans le Vexin, dans une petite ville, et, dans un ancien presbytère. Et là, ils sont absolument persuadés que là, ils vont vraiment se reconstruire. Mm-hmm. Parce qu'on va manger des fruits et
ils
légumes de la
vert.
Campagne. Voilà, on va être bio avant la lettre. On va manger des fruits et légumes de la campagne. Et on va boire modérément, comme il se doit, un verre pour accompagner le repas. Et on va écrire. Et donc, elle commence à écrire et André B. se plaint du fait que ça n'avance pas. Et quant à Reeves, il va moins visiter le potager que la cave.
Bon, alors André B., on va l'écouter d'abord et puis vous raconterez la suite de l'histoire après.
Au fond, Reeves, c'est l'homme de sa vie. D'ailleurs, dans notre première rencontre, je lui dis « Pourquoi Reeves ? C'est pourquoi l'avez-vous réépousé ?» Elle m'a répondu « C'est le seul homme qui m'a jamais baisé. » Elle voulait dire « Donner un baiser ». J'ai parfaitement traduit, ou du moins j'ai cru devoir traduire, que ce baiser n'était pas le sens usuel du mot, mais « Donner un baiser ». Leur histoire d'amour, c'est une histoire d'amour qui n'a pas de cesse, qui traverse toute sa vie à elle, même quand il s'est suicidé. Son suicide, c'est un redépart vers elle.
Peut-être sa seule œuvre aussi.
C'est sa seule œuvre.
La seule grande œuvre que tu aurais tellement voulu écrire.
Ben, il la signe, en quelque sorte. C'est un fait que sa propre vie en marge de Carson réfléchit sur l'œuvre de Carson, et comme c'est une œuvre qui cherche le bonheur mais qui ne trouve que le malheur, son suicide est comme une espèce d'apothéose.
André B. qui était en 2001 au micro de Laurent Pascuito. Vous êtes d'accord avec l'analyse, finalement, le récit que fait André B., l'éditeur donc de Carson McCullers, de la relation qu'elle avait avec Reeves?
Oui, je suis moins d'accord avec la relance.
Ce serait
sa seule œuvre. Reeves, son suicide.
C'est dur.
Je suis un peu. En plus, c'est très mystérieux cette histoire, puisqu'il écrit Tomorrow, I'm going west. Donc, I'm going west, ça peut vouloir dire je reviens. Je reviens te voir, Carson, je reviens. Mais il y a une expression aussi américaine qui peut dire demain j'en ai fini. Ça peut vouloir dire demain j'en ai fini. En plus, quand il meurt cette espèce de. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il a proposé à Carson qu'ils se suicident ensemble. Ça n'a pas abouti. Je pense que Carson n'avait pas. Elle le dit très bien d'ailleurs dans un texte autobiographique, qu'on a tort, même si la mort l'a occupé dans son œuvre, on a tort de la considérer comme quelqu'un de morbide. Elle n'était pas quelqu'un de morbide.
Peut-être parce qu'elle était malade aussi, qu'elle luttait précisément
voilà,
contre la mort.
La fin de sa vie le prouve, cette espèce de lutte contre. Si elle s'était abandonnée, elle n'aurait jamais fini l'horloge sans aiguille, elle n'aurait pas encore vécu plusieurs années. Si elle s'était abandonnée, la maladie, après elle a eu un cancer, ça, la maladie l'assaillait de toutes parts. Mais donc Reeves est allé dans cet hôtel parisien et il a beaucoup bu, il a pris des médicaments. Donc est-ce que c'était un vrai suicide conscient ou est-ce que c'était ce jeu étrange avec la mort, parce qu'au fond il est mort parce qu'il s'est étouffé avec ses régurgitations quand il a commencé à vomir, d'avoir trop bu et mélangé avec des médicaments. On ne sait pas, mais c'est vrai que pour elle ça a été une sorte de, comment il le dit André B., ça a été une sorte d'explosion. Enfin, ça a été un désastre absolu, désastre absolu.
Vous dites que c'est toute sa relation au monde qui devient à ce moment-là impossible.
Oui, je crois que c'est ça. Il était une espèce d'étrange fil Et André Bé le dit très bien, je crois que c'est vrai que c'est le seul, c'est l'homme de sa vie. Malgré tout, c'est l'homme de sa vie.
Elle avait 36 ans.
Oui. Et elle était bien, donc, elle était bien malade.
Encore 14 ans.
Oui.
Quelle sera la couleur finalement de ces années qui restent pour Carson McCullers?
Eh ben, il y a eu un grand succès qui est Frankie Adams, devenue une pièce de théâtre et qui a été désignée comme la meilleure pièce de l'année, etc.
Donc les prix arrivent, l'argent arrive en même temps.
Ça y est, le théâtre, ça rapporte beaucoup d'argent, comme vous savez, quand il y a beaucoup d'entrées, ça rapporte beaucoup d'argent, plus qu'un livre qui se vend bien. Donc il y a de l'argent, elle est un peu mieux. Et donc il y a ces voyages, celui qu'on a évoqué tout à l'heure, où François Sagan est allée, elle va beaucoup voyager avec Tennessee Williams, et il l'a beaucoup aidée aussi pour formaliser le théâtre, puisque lui est beaucoup plus un dramaturge qu'elle.
Ah, donc ils ont travaillé ensemble.
Oui, il a mis sur les rails, je dirais. Il lui a bien montré comment on devait travailler comme dramaturge. Elle a écrit une autre pièce, La racine carrée du merveilleux, qui n'a pas eu le même succès. Et puis elle a continué à essayer d'écrire L'horloge sans aiguille. Et disons que jusqu'au milieu des années 50, ça allait encore. Et puis ensuite sa mère s'occupait d'elle et sa mère est morte.
Et donc, sa mère s'occupait des deux d'ailleurs, parce que
oui.
Elle s'était occupée de Reeves.
Oui. Mais même après la mort de Reeves.
Il faut dire aussi que Reeves était lui aussi malade. Enfin,
oui, très. Oui. Et il a suivi quelques cures de désintoxication qui n'ont servi évidemment à rien. Mais après la mort de sa mère, il restait sa sœur comme soutien. Mais elle allait de plus en plus mal. Et par bonheur pour elle, elle a rencontré une femme psychiatre qui s'appelle Mary Mercer. Et elle lui a dit, dans un premier temps, je ne crois pas du tout... la psychanalyse, je ne crois pas au fait...
Elle ne voulait pas aller la voir, tout simplement.
Je ne crois pas au fait de se raconter. Je ne sais plus qui l'a forcé à aller la voir. Mais dès qu'elle l'a vue, moi j'ai rencontré Mary Mercer, on s'est beaucoup parlé. Et donc dès qu'elle l'a vue, elle lui a tout de suite dit un truc assez agressif. Quoi. Je ne crois pas à ces histoires qu'on va mieux en racontant que ça ne va pas bien. Et puis finalement, ça a été moins une analyse qu'une amitié et un soutien. Mary Mercer s'est tout à fait complètement dévouée. Elle pensait que Carson devait vraiment finir son œuvre, voilà, aller au plus loin possible dans son œuvre malgré la maladie. Et c'était une femme que j'ai trouvée assez admirable. Je pense que Carson a été amoureuse d'elle, évidemment. Je ne sais pas si ma mère-sœur était vraiment amoureuse de Carson, mais elle était fascinée par elle, fascinée par sa volonté de tenir malgré tout. Et elle a été un soutien constant avec elle. La dernière fois que j'ai rencontré Mary Mercer, c'était une très vieille dame. Et c'était quand Carson McCullers, juste après le 11 septembre, a été admise dans la Library of America, vous savez, qui est une sorte de pléiade, mais réservée aux auteurs américains. Et il y avait eu une célébration où il y avait eu des prises de parole. Moi, ma biographie était sortie en anglais, donc j'en avais parlé. Et Mary Mercer était là. Et elle habitait donc à Nyack, là où Carson...
Dans la maison de Carson McCullers ?
Oui, elle avait acheté la maison de Carson, elle habitait dans la maison de Carson, et elle avait plus de 90 ans, quand je l'ai rencontrée pour la dernière fois, juste 90 ans, mais toutes les semaines, elle prenait sa voiture et elle venait de Nyack à New York pour aller au musée, pour aller au théâtre.
En tout cas, on dirait que pour vous, c'est l'un des personnages clés, parce que vous ouvrez votre biographie avec elle et vous la terminez aussi avec elle.
Ah oui, pour moi, c'est un personnage magnifique. Je pense que c'est vraiment la personne qui a fait que Carson McCullers a pu vivre plus longtemps, a pu terminer son livre, a pu aller en Irlande voir John Huston.
Oui, c'était son dernier voyage hors des États-Unis.
Possible, un truc assez terrible. Et cette
Pourquoi
femme...
Pourquoi c'est terrible?
Parce qu'elle était tellement handicapée que ça a été tout un problème pour aller la chercher, l'emmener chez les gens. Enfin, c'était terrible.
Donc vous parlez
du film... Elle avait des problèmes d'élocution même à ce moment-là.
L'adaptation de Reflet dans un œil d'or. Le film qui sort le 11 octobre 1967. Et c'est quoi, un mois après la mort de Carson McCullers à peu près?
C'est quelques semaines, elle n'est pas morte fin septembre, je crois qu'elle est morte fin septembre.
29 septembre.
C'est ça, voilà. 29 septembre, j'ai pas osé dire 29 parce que j'ai pas eu peur de me tromper, mais ça, donc vous voyez, c'est 15 jours après.
Voilà, après 47 jours de coma à l'hôpital de Nyack.
Et sa tombe est à Nyack.
Vous l'avez visité justement cette tombe ?
Ben oui, je suis allée voir. Vous savez, on a toujours un côté un peu midinette quand on fait une enquête biographique. Et puis ces cimetières américains ont toujours un côté jardin. Vous savez, c'est pas des cimetières sinistres. Et quand même, ce que j'ai vu, parce que j'ai demandé aux gardiens comment se reconnaître. En plus, les tombes américaines sont presque toutes pareilles. Et le gardien m'a dit, ah, mais vous aussi, mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent voir la tombe de Carson McCullers.
Oh, il y a quelques stars dans ce cimetière. Il y a aussi des peintres.
Oui. Je ne sais plus exactement qui il y a, mais il y a pas mal. Enfin, il y a du monde, finalement, à Naïac.
Oui. Et puis, il y a l'hôpital qui est au fond. Oui. Et donc, les patients peuvent comme ça observer...
L'endroit où ils vont finir. C'est horrible ce que vous dites.
Ou peut-être ils vont terminer, ce n'est pas moi qui le dis, c'est vous qui le sous-entendez dans votre biographie. Merci beaucoup, Josiane Savigno.
Merci à vous.
Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de cette biographie, Carson McCullers, Un cœur de jeune fille. On peut se le procurer au livre de poche. Il est paru chez Stock en 1995. Et puis demain, nous, on continue de parler de Carson McCullers. Ce sera avec Marie-Claude Perrin-Chenour et avec Geneviève Brisac, qui nous parleront donc de Frankie Adams, mais aussi de l'enfance et du style de Carson McCullers. Et tout de suite, sur France Culture, vous retrouvez Jacques Bonafé qui lit des poèmes de Jacques Dupin.
Bonjour, bonjour la compagnie. Nous entreprenons Discorde de Jacques Dupin. C'est un livre publié chez POL, un livre important sans doute, mélangeant à la fois les mots d'un jeune homme, ses combats pour être reconnu poète et les tout derniers instants d'écriture. Discorde est organisé selon les volontés de Jacques Dupin, regroupant aussi des lettres et des textes venus des revues, des livres publiés. Tout premier texte du poème Discorde, alors. L'arbre est droit comme une vipère, je ne sais quel fruit saisir. Quelle parole incisée dans l'écorce autour du fût de l'arbre droit, de l'arbre intact qui se tait, dont la résine est ma voix. Dupin est mort en 2012 et en 2010, luttant contre la maladie, il a écrit chaque jour un texte. 11-2-2010, la poésie, pourquoi faire ? Rien. Ne faire rien, mais l'écrire. Être rien qui exclut le reste. Une écriture mise à nu, qui se désencombre des choses, des êtres, du décor, du temps, de la nuit. Ayant accepté qu'elle s'unisse à moi, qu'elle unisse son corps à mon corps, j'exclus, écrivant, la chambre, l'écho, la fumée, le chat. Je n'ai jamais accepté qu'un ange me pourlèche ou me grignote, sa ligne de tir ne rencontre pas ma ligne de flottaison. À ma naissance, j'ai lesté de charbon son survol. Il scintille et ne tombe pas. J'accueille la fadeur de ses excrétions et tire un trait final. Une plume signe, une aile se décompose. Voici la suite du texte Discorde, un texte à teneur fortement autobiographique, mais aussi un blason citoyen, une vieille ardeur révolutionnaire. Une rue prime sautière ruisselle sous mes fenêtres, parmi la foule des dormeurs, jamais trop de fruits rouges dans le panier, ni de tête coupée dont le jus assourdit le caniveau. J'écoute la voix de l'impatience qui nous fait descendre à la rue. Le hurlement du guetteur plante ses couteaux dans la ville, les poings se serrent pour l'assaut d'un soleil exsangue. J'exhibe un drapeau de blâme d'un étage avant-coureur, et où qu'il aille au ravin, il en ressort ruisselant. Un orage de poubelle, un cri de l'âme à Anan, à défaut de Mirabelle, les mots brandons du printemps. La postérité m'éclabousse, régurgite les poissons, les aléas de la vie vécue. J'ai beau me gonfler la crête, j'ai beau vrombir de la glotte, j'ai beau me gratter le cul, rien n'écrit. J'ai beau consonifier la syllabe et syntagmer le cri en ut, ratisser devant ma porte, sublimer l'arrêt du cœur. Rien n'écrit, ni cri, ni fleur. Le discoutre cuidant dont j'abuse, éclabousse de merde la postérité.
Merci Jacques Bonafé, vous lisiez donc des poèmes de Jacques Dupin.